marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio Lu.
Emmanuel Lepage.
Je m'appelle Emmanuel Lepage, je suis auteur de bande dessinée, à la fois de bande dessinée de fiction et de ce qu'on appelle aujourd'hui des bandes dessinées de reportage. Je vis et travaille dans les Côtes d'Armor, pas très loin de la mer, cette mer que je dessine très régulièrement. Et ça fait maintenant peut-être bientôt 40 ans que je fais de la bande dessinée. J'ai commencé donc très tôt.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nous t'avons rejoint à Plouran, dans les Côtes d'Armor, et nous nous trouvons actuellement chez toi, dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous décrire ton atelier et le matériel que tu utilises ?
Alors, c'est une petite pièce qui est vitrée sur trois côtés. Donc, il y a la nature qui m'environne. J'ai une route en bas de chez moi, un peu trop près parfois. J'ai vu sur le jardin, et autour de moi, il y a beaucoup de crayons, de pinceaux. Il y a une table lumineuse, scanner et imprimante, un ordinateur aussi, même si je fais essentiellement mon travail à la main. Je travaille essentiellement à l'aquarelle, donc il y a pas mal de tubes autour de moi, pas mal de pinceaux. En ce moment, là, il y a un dessin en cours là, qui est devant moi, qui est une affiche pour un festival de bande dessinée. Donc c'est un travail à l'aquarelle, et pour ce qui peut vous surprendre peut-être, c'est qu'il y a du sel à côté de ma table. Et ce sel, en fait, va me servir à l'aquarelle, parce que ça me permet d'avoir des textures différentes. En fait, le sel absorbant l'eau, quand j'ai un dessin humide comme ça à l'aquarelle, il suffit que je mette quelques grains de sel dessus qui vont absorber à certains endroits, et ce qui me permet d'avoir des textures intéressantes. Le problème du sel, c'est que c'est extrêmement aléatoire, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, en fait, à la fin. Parfois, ça peut faire des trucs sympas, souvent c'est catastrophique.
Ah.
Mais j'essaye, voilà.
Plusieurs de tes BD sont en fait des reportages illustrés, construits au cours de tes voyages. Dans ces conditions, tu peux nous décrire ta manière de travailler, en commençant par aussi la description du matériel que tu peux embarquer en voyage.
Alors, par quoi j'ai commencé ? Peut-être par le matériel. Le matériel que j'utilise en voyage est très simple, parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit léger. Donc, en général, quand je voyage, j'ai un carnet, une boîte d'aquarelle, un ou deux pinceaux et une petite bouteille d'encre de Chine. Voilà, puis un crayon papier. Voilà, c'est quand même très simple, de manière à ce que ça puisse tenir dans la poche. Quand je voyage, par contre, dans les terres australes, en Antarctique ou à Tchernobyl, là, je suis à demeure. Dans les bateaux, j'ai une cabine, ou à Tchernobyl, j'ai une maison. Donc là, ça me permet d'amener un peu plus de matériel. Donc d'avoir plus de matériel me permet d'explorer, en fait, d'autres techniques, comme le fusain, la craie grasse, peut-être la gouache aussi. Mais c'est vraiment lorsque je sais que je vais avoir un lieu à demeure où je pourrais stocker ce matériel. Quand je voyage plutôt en itinérance, et là, c'est pas obligatoirement pour en faire des bandes dessinées, j'ai un matériel le plus simple possible. Ça, c'était la première question. La deuxième chose, c'est pour les bandes dessinées de reportage. Effectivement, je me suis lancé là-dessus depuis quelques années. Alors, c'est quelque chose qui est venu un petit peu par hasard. Je faisais des carnets de voyage. Certains ont été publiés. J'en ai fait qui se passait au Brésil, en Amérique du Sud. Et le premier carnet que j'ai fait, enfin, la première réalisation sur Tchernobyl a été un carnet de voyage. Les bandes dessinées de reportage, là on va rentrer dans un sujet assez vaste, c'est venu assez tardivement, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. On m'a proposé, en fait, de partir dans les terres australes françaises, plus précisément mon frère qui est photographe et une amie journaliste. Et c'était pour monter à bord du Marion Dufresne. Et pour pouvoir monter à bord de ce bateau, il faut avoir un projet assez solide, parce qu'il y a énormément de demandes en fait pour monter sur ce bateau, puisque c'est pas un bateau de tourisme, et c'est le seul moyen d'aller à Kerguelen. Et mon frère se disait qu'un projet qui proposait à la fois un texte journalistique, des photos et des dessins, peut-être avec plus de chances de passer auprès de l'administration des Terres Australes. Et pour pouvoir monter sur le bateau, il me fallait une autorisation une garantie de publication de la part d'un éditeur, comme quoi j'allais faire un carnet de voyage à l'issue de ce voyage. J'ai demandé à mon éditeur, Futuropolis, si un carnet de voyage sur Kerguelen pouvait les intéresser, et mon éditeur m'a dit non. Il m'a dit écoute, les carnets de voyage ça se vend pas, par contre si tu fais une bande dessinée, ça nous intéresse. Et je lui ai dit oui, évidemment, parce que je voulais partir, mais j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. À l'époque, la bande dessinée de reportage, je n'en avais pas tant que ça. Pour moi, je faisais essentiellement des bandes dessinées de fiction, en fait, jusqu'alors. C'est au cours du voyage que je me suis dit comment je pourrais raconter ce qui se passe, et comment je pourrais mettre dans un même album à la fois les croquis faits sur place et la bande dessinée. En fait, tout ça s'est un peu élaboré au fil des rencontres, des dessins que je faisais. C'est comme ça que je suis venu en fait à la bande dessinée de reportage, en fait, un peu par hasard.
Et donc les dessins que tu mets dans tes BD, c'est à la fois des croquis que tu as pu faire sur le terrain issus de tes carnets de voyage et d'autres dessins que tu fais a posteriori du voyage.
Alors, non, c'est très juste, parce que ces questions, en fait, je me les suis posées au cours du voyage et ensuite surtout au retour, en fait, quand il s'agit de faire la bande dessinée. Donc, pendant le voyage, en fait, j'ai essentiellement fait des croquis, en fait, ce que je fais en général quand je voyage. Hein, j'ai plein de carnets de croquis ici parce que j'aime voyager, mais j'aime surtout dessiner en voyage. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, qui a toujours été pour moi le dessin en voyage, quelque chose qui m'a nourri. Par exemple, l'aquarelle que je pratique beaucoup aujourd'hui, c'est en voyage que je l'ai élaboré. C'est parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire de l'aquarelle en voyage que je me suis dit, tiens, pourquoi pas réinvestir ce plaisir dans la bande dessinée. Donc c'est un petit peu, je dirais, une mine dans laquelle je creuse des idées, des propositions, d'autres formes graphiques. Le dessin en voyage, c'est vraiment la base pour moi, en fait. Donc pendant ce voyage dans les Terres Australes, donc qui était la première bande dessinée de reportage que j'ai fait, j'ai fait essentiellement des croquis avec des techniques différentes, puisque là, ayant une cabine, comme je disais tout à l'heure, là je pouvais amener plus d'outils. Et au retour, donc j'avais à peu près, je sais pas, 150-200 croquis faits sur place. Et j'ai eu besoin, en fait, en rentrant, de fixer, en fait, certaines visions, certaines images, certaines envies de dessin sous forme de grandes illustrations. Donc la première chose que j'ai fait, c'est une quinzaine de grandes illustrations, comme on voit parfois ce grand bateau là qui a été réutilisé pour la couverture, qui passe devant un glacier, des pics acérés. C'était le premier que j'ai fait en rentrant. Et je me suis dit, mais comment je vais organiser dans une bande dessinée à la fois ces grandes illustrations, ces croquis faits sur place, et la bande dessinée. Et je faisais des carnets de croquis, je faisais des bouquins d'illustrations, je faisais de la bande dessinée. Mais ce livre a été le premier où j'ai regroupé en un seul livre, en fait, tout ce que j'aimais faire, mais différemment, sans bien savoir ce que je faisais. J'ai choisi de faire la bande dessinée, par exemple, en noir et blanc, pour vraiment dissocier ce qui a été fait sur place, qui était plutôt en couleur, de ce qui a été fait ensuite dans cet atelier. En général, on écrit d'abord l'histoire et on fait le dessin après. Là, curieusement, les dessins précédaient l'histoire. Et donc, c'était une façon de penser la bande dessinée qui était extrêmement différente de tout ce que j'avais jusqu'à présent mis en place. Et c'est en ça que ça a été extrêmement excitant. C'est quelque chose, voilà, qui s'est vraiment construit au fur et à mesure. J'avais pas une idée particulière, même sur le bateau en fait. Je savais pas très bien comment j'allais raconter ça. Je savais que j'allais raconter le voyage, mais je savais absolument pas sous quelle forme, comment j'allais pouvoir organiser toutes ces choses-là.
Et justement, sur le bateau, comme on peut le voir dans tes BD, les conditions sont un peu mouvantes. Et avec le mal de mer qui s'ajoute à ça, est-ce que c'est pas difficile de réaliser des croquis en mer avec le ressac?
C'est parfois un cauchemar. Mais en fait, tu vois, sur un croquis en voyage, l'important, c'est pas que ce soit réussi, en fait. C'est pas ça que je cherche. C'est pas du tout d'avoir un bon dessin, un beau dessin. Mais plutôt que le dessin traduise ce qui s'est passé au moment où j'étais en train de le faire. C'est-à-dire que chaque dessin que je fais est lié à un moment, à un souvenir, parce que ça prend du temps. On n'est pas dans la même temporalité en fait quand on fait un croquis, et d'avoir un dessin fait sur place, c'est pour ça que je suis très très attentif au croquis de voyage. C'est que justement, si on est malade parce que ça bouge, eh bien j'espère que ça se voit dans le dessin. S'il se met à pleuvoir au moment où je suis en train de faire le dessin, ça va se voir dans le dessin. Mais alors parfois ça peut être très moche en fait ce qui se fait, ce que je vais traduire. Mais ce dessin dit quelque chose de l'instant où il a été fait. Et c'est ça en fait finalement qui m'intéresse. Dans un autre livre qui est Tchernobyl, en fait, c'est Un printemps de Tchernobyl, je fais un dessin au pied de la centrale. J'ai un masque, des gants. On a très peu de temps devant la centrale. Notre chauffeur nous a dit qu'il fallait fermer les portes du combi et qu'on avait 20 minutes. Et autour de moi, j'ai les dosimètres, donc ce qui permet de mesurer la radioactivité qui craque, quoi, en fait, qui crépite. Et moi, j'essaie de faire un dessin à ce moment-là, dans ces conditions-là. Évidemment, je suis dans une situation de stress. Quand à un moment donné, il y a un de nous qui dit que le compteur est au taquet, c'est-à-dire au maximum de ce qu'il peut mesurer, et que le chauffeur qui nous hurle derrière en nous disant « il faut rentrer absolument, il faut partir », moi je me dis « j'ai pas fini mon dessin ». Mais en même temps, voilà, je suis dans un état en fait extrêmement particulier, en fait qui traduit, je crois, le lieu. Mais le dessin est moche et raté. Mais je trouve qu'il répond bien finalement à la commande de traduire en fait l'état émotionnel dans lequel je suis à ce moment-là. Donc c'est ça en fait qui m'intéresse en fait dans le croquis de voyage.
Dans les terres australes et en Antarctique, tu as été accueilli dans des bases scientifiques. Comment tu t'es intégré dans les équipes en tant qu'artiste ?
Il y a eu deux situations différentes. La première, c'est dans les terres australes françaises. J'étais un dessinateur, point. Qui faisait des croquis. Ça fait pas peur. Voilà, j'ai un gars qui dessine. Il n'y a pas le côté intrusif que peut avoir, par exemple, un micro ou une caméra. Moi, je dessine dans mon coin. Les gens vont venir me voir. Là, je peux faire un portrait. Enfin, les portraits, ils vont souvent se faire après, quand on a commencé à bien se connaître. Je vais plutôt me mettre dans un coin, dessiner un truc, dessiner les animaux. Et en fait, c'est souvent les gens qui viennent. Donc la discussion peut se faire très naturellement, en fait. Voilà, comme on le fait autour d'un café. Après, au fil de la discussion, moi, en rentrant plus tard dans mon coin, le soir, ou dans ma cabine, je vais éventuellement prendre quelques notes, quelques mots, quelques phrases dont je me souviens. Mais dans le moment, il y a quelque chose de très simple, de très naturel. J'essaie de me souvenir, en fait. Le dessin peut être aussi un souvenir au dessin, aux situations, plutôt. Voilà, le dessin, ça fait pas peur, ça intrigue, et les gens sont plutôt bienveillants, en fait. Donc, c'est très simple. Alors, dans le deuxième voyage, c'était autre chose, parce que là, mon premier livre était sorti, donc Voyage aux îles de la Désolation. Et évidemment, tous dans le monde polaire connaissaient ce livre. Donc, évidemment, le regard en fait, qu'on portait sur moi était différent, puisque j'avais fait un livre. Donc là, pour le coup, il y avait beaucoup d'attentes. Parce qu'ils disaient, tu vas faire sur nous ce que tu as fait sur les autres dans les terres australes. Donc là, évidemment, ça modifie beaucoup la relation, parce que parfois ils savent que ce qu'ils disent pourra être mis dans la bande dessinée. Donc je suis obligé aussi de faire en sorte, je dois prendre en compte en fait cette dimension-là, même si à un moment donné on oublie. Mais une chose toute simple, c'est par exemple que les gens vont être beaucoup plus attentifs à me dire ce qu'ils font. Tandis qu'avant, c'était plutôt moi qui allais les chercher, en fait, en leur disant, bon, voilà, tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais, en quoi ça consiste. Mais c'était très informel. Dans le deuxième voyage, c'était parfois un peu plus formel. Enfin, pas toujours, parce qu'après, on est dans l'action. La grande différence aussi entre le premier et le deuxième voyage, c'est que dans le premier voyage, nous étions plus spectateurs, en fait. On participait à l'expédition, mais on n'avait pas de rôle à proprement parler, sinon de témoigner. Tandis que dans le deuxième voyage, on était plus acteurs, puisqu'on était chauffeur dans le raid, donc on était vraiment dans le quotidien de ces gens-là. On n'était pas que là à regarder. On regardait, mais on faisait aussi beaucoup de choses.
Comment tu as perçu les conditions de vie, que ce soit donc le côté terre reculée, île australe, et terre reculée, Antarctique, le froid, le bout du monde? C'est des conditions difficiles de vie quand on travaille là-bas?
Ah oui, à demeure, oui. Dans les terres australes, il fait pas particulièrement froid dans les terres australes. Hein. Par bien des côtés, ça peut ressembler un peu à la Bretagne. C'est-à-dire que le temps change énormément tout le temps. Et ce qui peut rendre fou, c'est le vent. Après, ce qui est extraordinaire dans les terres australes, c'est que c'est des endroits, parmi les très rares endroits au monde, où on ne peut accéder qu'en bateau. Donc d'aller là-bas, c'est déjà appréhender le temps du voyage, parce que pour accéder à la première île, premier archipel qui est Crozet, il faut 7 jours. Donc on passe des eaux chaudes de l'océan Indien aux eaux froides de l'océan subantarctique. Les couleurs changent, la température change évidemment au cours du voyage. Et on entre dans les voyages tels qu'on les imagine autrefois, comme dans les grands récits de navigateurs. Quand on passe la ligne de convergence, c'est-à-dire le moment où entre les eaux chaudes et les eaux froides, en fait, il y a un phénomène de brume qui se crée. Et donc pendant une journée, on traverse cette brume, et on est un peu comme dans les récits mythologiques où on imaginait que quand la terre était plate, il y avait les nuées au bout, et puis derrière les nuées, il y avait les animaux fantastiques. Ben là, c'était pareil. C'est-à-dire, on avait les nuées, donc puis en plus le son est mat, en fait. Hein, donc on glisse comme ça dans une eau métallique et ce son mat. Et quand on arrive au petit matin, enfin vraiment, le soleil ne s'est même pas levé, on arrive et on distingue une île après 7 jours de mer. Et quand on va jeter l'ancre, en fait, on va avoir des milliers de manchots autour de nous. Et voilà, ils sont là, les animaux fantastiques. Donc on a vraiment ce sentiment d'être ailleurs, enfin d'être au bout du monde. Et c'est des îles donc du vent, où il n'y a pas d'arbres. Et c'est assez extraordinaire. Enfin, oui, c'est vraiment le sentiment d'être au bout du monde. Voilà, et dans une autre aussi temporalité, déjà pour y aller, mais quand j'y étais, il y avait très peu d'internet, par exemple, il n'y avait pas de téléphone portable, en fait, tout ce qui régit en fait notre quotidien, les réseaux, enfin, un truc tout bête, on peut passer des heures à table sans qu'une sonnerie de téléphone ne sonne. Voilà, ça nous semble une sorte de luxe incroyable aujourd'hui, mais c'est ce quotidien-là, donc c'est aussi une plongée dans le temps. Ce sont aussi des terres où il y a des communautés, c'est des bases, c'est des îles désertes. Donc on entre dans des groupes de gens qui se connaissent bien parce que ça fait des mois, voire plus, qui sont ensemble. Ils ont leur rite. Enfin, c'est très ritualisé, en fait, ces bases-là. Il y a un souci de faire groupe, tout simplement, pour pouvoir tenir dans ces conditions. Vous imaginez qu'il y a des gens qui passent jusqu'à 18 mois en fait sur les bases, et dont 6 où ils voient personne, d'autres que le groupe. Et donc pour pouvoir cohabiter en fait pendant tous ces mois, mais ils ont mis au fil des décennies en fait des formes de rituels qui fait qu'il y a une vraie communauté des terres australes. Ça, j'en avais pas conscience en fait au début, et c'est ça qui m'a semblé intéressant en fait de développer dans mes bandes dessinées. Faire une bande dessinée, je dirais, sur ces magnifiques animaux, sur ces terres incroyables, je sais pas comment faire, en fait. Je peux les mettre comme décor, mais je vais pas faire une histoire avec des manchots. Enfin, je sais pas faire. Mais par contre, une histoire avec des gens, sur ce groupe, sur cette communauté, ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Mais c'est pas venu tout de suite. Voilà, c'est un peu, en fait, en les côtoyant, en me rendant compte qu'il y avait une vraie communauté d'esprit, en fait, entre tous ces gens-là, que je me dis, ben oui, c'est ça qu'en fait, il faut que j'essaie de raconter dans mes histoires. Donc je pense que c'est surtout ça qui va me marquer. En fait, j'irais même peut-être plus que les lieux incroyables qu'on a vus. C'était cette forme de vie, d'être ensemble, qui est très différente. C'est des terres où l'argent ne circule pas, voilà, tout simplement, par exemple. Où chacun va s'entraider. Il y a un médecin, mais le médecin, par exemple, va former une équipe autour de lui, en cas de problème. Si lui tombe malade, il faut quelqu'un d'autre. Voilà, donc il va créer ça. Tout le monde va être otage du quotidien. On va apprendre les métiers des autres aussi. Le scientifique va apprendre la boulangerie, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Alors ça, c'est dans les terres australes. Alors en Antarctique, c'est un peu semblable, à la différence près qu'en Antarctique, là, on est carrément dans un autre monde. Voilà, on est sur une autre planète. C'est-à-dire, vous êtes sur des terres de glace, là, cette fois. Et j'ai vu deux bases, hein, donc du Mont d'Urville, donc sur la côte. Donc là, encore, on a un paysage qui est mouvant, enfin celui des glaces qui vont se former, les icebergs, la banquise, les animaux. L'autre base que j'ai vue qui est en Concordia, elle se situe à 3500 mètres d'altitude sur l'Inland 6, donc c'est-à-dire une grande étendue de quelques millions de kilomètres carrés plate et blanche. Et eux vont être sur une base où pendant 6 mois il fait nuit. Et il fait moins 90 dehors. Donc c'est comme une base spatiale, en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites par l'Agence spatiale européenne sur cette base-là, justement, pour voir quelles sont les conditions de vie, en fait, dans quelque chose qui est assez proche, en fait, de ce que pourrait être une station spatiale. Et là, par contre, ça doit être. Enfin, je pense que c'est l'expérience ultime. Franchement, de passer 10 mois sans voir personne, que les 14 autres personnes autour de moi, sans possibilité de sortie, sans possibilité d'aller même dehors, ou très difficilement, vu qu'il fait nuit et froid, ça doit être absolument hallucinant, quoi. Dans ces deux voyages, c'est le monde de la science que je ne connaissais pas. J'ai rencontré là-bas des gens qui étaient passionnants, parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, dans des registres extrêmement différents. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de traduire dans les bandes dessinées, c'est de témoigner de cet enthousiasme que j'ai eu pour ce monde que je ne connaissais pas. C'est pas du tout mon cursus, c'est pas du tout mes études, et ça a été pour moi une vraie découverte et un vrai enthousiasme, parce que j'ai rencontré des gens extrêmement curieux, ouverts, et avec cette capacité en fait de toujours remettre en question ceux qui savent. Et ça, c'est cette façon de penser m'intéresse aussi beaucoup. Il n'y a pas de jugement, en fait. J'étais très bien accueilli en tant que dessinateur, par exemple. Je le dis parfois, mais j'ai eu l'impression d'avoir rencontré des adultes, en fait. C'est ça qui était génial. Et c'est des gens qui vont chercher quelque chose qui est plus grand qu'eux. Voilà. Dire que, effectivement, ils vivent et ils travaillent dans des conditions extrêmes. Mais ils se vivent absolument pas comme des héros polaires. Je pense que si on veut vraiment agacer un hivernant, c'est de lui dire que c'est un héros polaire. Donc c'est pas quelque chose qui les accueille volontiers, même si parfois ce qu'ils font est franchement héroïque. Travailler dans de telles conditions, c'est inouï. Et puis cette souplesse aussi qu'ils ont à toujours essayer de trouver des solutions lorsque les conditions climatiques changent. Or, les conditions climatiques changent tout le temps. Donc, à chaque fois, il faut remettre en question ce qu'il croit acquis ou possible de faire. Et c'est ça aussi qui m'a fasciné. C'est-à-dire comment les logisticiens, enfin les gens sur les bateaux, en permanence, en fait, s'adaptent aux conditions pour essayer de mener leur mission, mais avec humilité, en sachant que c'est pas eux qui vont gagner contre le climat. C'est cette tournure aussi qui me passionne. Quand on est ici chez nous, on a toujours l'impression, c'est ce credo libéral, quand on veut, on peut, vous voyez. C'est ça qui régit un peu nos sociétés, bon, qui est une bêtise. mais là-bas, c'est autre chose, ça nous oblige à penser autrement. C'est-à-dire, non, c'est pas quand on veut, on peut. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Voilà. Et on essaie de mener à bien quand même ce vers quoi on tend, sans savoir si on va réussir. Mais on essaye et on cherche. Et c'est ça aussi que je vais découvrir. En fait, c'est une façon de penser qui m'a beaucoup intéressé. C'est un monde qui m'a beaucoup touché. Et voilà, que j'ai essayé de traduire après dans les bandes dessinées.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano, si Dieu veut toujours droit devant.
Nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano,
d'y penser j'avais le cœur gros.
En doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano,
si Dieu veut toujours droit devant.
Nous irons jusqu'à San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Liceo Santillano,
on trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano,
si Dieu veut toujours droit devant.
Nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Liceo Santillano,
au pays j'irai voir Marco.
À son doigt je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Liceo Santillano,
sur la mer qui fait le gros dos.
Nous irons jusqu'à San Francisco.
Vous écoutez Marine sur Radio U.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lepage, dessinateur et auteur de bandes dessinées. Il se dédie à des fictions, des carnets de voyage illustrés, puis finalement à des reportages dessinés.
Parmi les plus marquants, il nous fait découvrir l'Ukraine 22 ans après l'accident nucléaire, avec un printemps à Tchernobyl paru en 2012, et participer à des expéditions scientifiques dans les terres australes et antarctiques françaises, avec Voyage aux îles de la Désolation en 2011 et La Lune est blanche en 2014. Ensemble, nous nous plongeons au cœur de son travail et de ses récits de voyage.
Dans les BD que l'on a évoquées, les personnages que tu dessines sont des personnes réelles le plus souvent. Le cas des hivernants, par exemple. Comment tu t'y prends pour réaliser des portraits ou pour essayer de mettre la personne à l'aise? Tu disais que le plus souvent, les personnes venaient vers toi lors du premier voyage. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commence un peu à griffonner ou c'est en plusieurs fois que tu réalises des portraits?
Alors, j'ai sur les bandes dessinées de reportage, hein, donc ils sont tous des vraies personnes qui existent, on est bien d'accord. Je fais leurs portraits sur place. Ouais, je leur demande, mais là aussi de façon très très informelle quand je commence à les connaître un peu mieux. Donc voilà, ça se fait tranquillement. En fait, le portrait, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une situation assez inhabituelle, en fait, de se faire dessiner. Il y a une intimité, en fait, qui se crée entre la personne qui dessine et la personne qui est représentée. Et on peut discuter, en fait, pendant ce temps-là, du moment que la personne ne bouge pas trop. La discussion, ce qui se crée, en fait, ce lien qui se crée au moment du dessin, en fait, je pense, se voit, je dirais, quelque part aussi dans le dessin. Je pense que c'est cette humanité qui peut se dégager par la parole et par la situation particulière qu'est d'être portraituré, en fait, se traduit dans le dessin. Donc je pense que quand je fais le croquis, quand je fais le portrait, je suis sans doute plus attentif à certaines façons de... de tenir des proportions, quelque chose qui va émaner, en fait, de cette personne, que je n'aurais sans doute pas si je prenais une série de photos, par exemple. Alors, évidemment, j'ai aussi des photos. Parce que au cours de ces voyages, je prends beaucoup de photos. Qui ne sont pas des photos comme le fait mon frère, en fait, dans les terres australes ou en Antarctique, qui, lui, sont des photos qui ont une existence en soi. Moi, je fais des photos de documentation. C'est-à-dire, ça va être des détails, des choses qui m'intéressent, pour être ensuite retraduites en bande dessinée. C'est-à-dire que je ne fais pas des belles photos, si vous voulez, ou des bonnes photos. Je fais des photos de documentation. Alors parfois ça peut être de bonnes photos, mais enfin c'est pas l'idée, en fait, voilà. L'idée c'est vraiment quelque chose que je vais ensuite réinterpréter. C'est toute la difficulté, en fait, je dirais, de la documentation, c'est-à-dire que il faut savoir s'en servir, il faut savoir la tordre, il faut savoir la mettre, en fait, au service de ce que l'on veut raconter. On ne doit pas être prisonnier, je dirais, de la documentation, mais d'être au contraire, de s'en servir pour être sur le fil de l'histoire et du propos du livre.
Justement, dans tes BD, on apprend beaucoup de choses. On a beaucoup de références de données scientifiques, de faits historiques ou même des légendes. Tu te renseignes beaucoup à l'avance ou tu apprends sur le moment dans tes discussions?
Alors, quand je voyage en général, je lis très très peu de choses avant. À tort ou à raison, en fait, quand je vais faire un voyage, je vais lire des trucs pour des choses pratiques, comment on voyage, dans ce pays, quel matériel il me faut, etc. Mais je vais plutôt apprendre, je dirais, sur place, par les rencontres que je vais faire. Je n'ai pas du tout de plan, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. En fait, l'intérêt du voyage, de façon générale, c'est de ne pas savoir ce qu'on va découvrir. Si on va avoir confirmation de ce qu'on a appris dans les livres, ça n'a pas grand intérêt. En fait, je dirais, autant ne pas voyager, au risque d'être déçu. Mais je préfère être le plus vierge possible avant de partir en voyage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et dans les bandes dessinées de reportage, comme je vous disais tout à l'heure, c'était que je savais, je ne sais pas très bien où ces livres vont m'amener. Si j'ai une trame, je ne sais pas obligatoirement comment je vais amener les faits. Donc c'est une façon aussi de repartir en voyage. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. Je ne sais pas comment ça va me changer. Mais c'est ça, en fait, qui est excitant. Donc c'est pour ça que je lis assez peu. Après, bah, évidemment, dans le voyage, je suis dans l'action, dans le mouvement, dans ce qui est en train de se faire. Et par contre, au retour, là, je vais commencer à travailler dans le cadre de bandes dessinées de reportage qui traitent de faits historiques, scientifiques. Là, j'essaie d'être au plus juste. Et des gens que j'ai rencontrés, alors j'ai pris des notes un petit peu sur place sur ce que font ces gens. J'ai une petite idée quand même de ce qu'ils font, mais après on va avoir un certain nombre d'échanges par téléphone ou plus souvent par mail, éventuellement de se revoir, où je vais leur demander en fait voilà qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu recherches, et ensuite je l'interprète, j'essaie d'en faire une synthèse de vulgariser de ce qu'ils m'ont dit, de manière à ce que ce soit accessible pour tout le monde, sachant que je fais une bande dessinée, c'est-à-dire que je m'adresse pas à ses collègues, à cette personne ou à des gens qui connaissent obligatoirement, je ne sais pas moi, les satellites qui circulent dans les terres australes, l'ornithologie ou les mammifères marins. Je ne m'adresse pas à eux, mais à un public, j'espère, le plus large possible, mais que quelqu'un qui travaille sur les mammifères marins se reconnaisse aussi dans les propos. Voilà. C'est-à-dire que c'est cet équilibre qui est un petit peu difficile à traduire, et c'est pour ça que ça implique d'avoir beaucoup d'échanges en fait, avec ces gens-là, beaucoup d'allers-retours. Mais par contre, le récit, il est de mon fait. C'est-à-dire, je leur demande pas de lire ma bande dessinée, je dirais avant publication. J'ai seulement sur le sujet qui les concerne et sur des choses plutôt factuelles. Voilà, j'essaie en fait d'être de pas trahir leurs propos, mais le chef d'orchestre, c'est moi. Voilà.
Donc en fait, dans le cas là, je reprends l'exemple de la bande dessinée, les Îles de la Désolation, c'est un projet sur long terme, ça met beaucoup d'années entre le voyage et la publication de la BD, c'est un gros travail dans le temps.
Alors, le voyage aux Îles de la Désolation a été fait très vite. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que, oui, tu as raison, une bande dessinée, ça prend énormément de temps. Enfin, je prenais énormément de temps pour faire une bande dessinée. C'est-à-dire, avant de faire des bandes dessinées de reportage, je faisais des bandes dessinées de fiction, hein, d'imagination, qui, effectivement, impliquaient aussi beaucoup de documentation, un dessin réaliste, en plus à l'aquarelle, donc qui a un temps d'exécution qui est assez long. La bande dessinée de reportage m'a permis de développer un dessin beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide. Et effectivement, c'est énormément de travail, mais je les ai fait, les trois que j'ai fait, je les ai fait relativement vite. Par rapport à la pagination, hein, c'est des bouquins, la Lune est blanche, c'est plus de 230 pages, donc c'est beaucoup en fait en bande dessinée. Les uns et les autres sont quand même des fortes paginations, mais il y a une technique de dessin qui me permet beaucoup de souplesse et qui me permet aussi de recommencer des choses plus facilement. Si tu veux, avant, quand je faisais une page de bande dessinée, ça me prenait, mettons, une semaine. Voilà, pour réaliser une page. Aujourd'hui, je peux faire une page en une journée, voire en deux journées maximum. Donc, je peux les recommencer si ça ne me convient pas, si c'est mal raconté. Enfin, j'ai beaucoup moins de scrupules à les modifier. Donc, en fait, je travaille, je dirais, peut-être plus comme un réalisateur de films. Je peux faire des pages, je coupe, je recolle différemment. En fait, il y a une façon de penser la bande dessinée qui est très, très différente et que j'ai justement essayé de mettre en place avec ces bandes dessinées de reportage et de pouvoir modifier jusqu'à la fin du livre sans que ça me prenne trop de temps ni trop d'énergie. Voilà, j'essaye d'avoir de la souplesse, et ce que je cherche en fait c'est plus de légèreté aussi dans la création.
Est-ce que tu as d'autres projets de voyage un peu lointain pour ces prochaines années?
Alors il y a deux choses là qui ont été décalées à cause de la pandémie, entre autres. La première est un voyage à Kerguelen qui est alors cette fois dans un autre cadre que celui que j'ai fait, qui était une rotation. Donc c'est-à-dire je passais un mois sur un bateau. Là, ce serait de rester quelques mois à Kerguelen pour suivre en fait les missions qui se font là-bas. Donc là, concrètement, je suivrai le quotidien non pas des hivernants mais des campagnards d'été. Ce qui me permettrait d'aller aussi dans les cabanes, de passer peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans une cabane. Et ça, c'est intéressant, parce que Kerguelen est une île déserte, qui est grande comme la Corse. Donc là, on a des sentiments d'isolement qui doivent être très intéressants à vivre. Ça, c'est la première chose. Donc normalement, ça devrait se faire fin 2022. L'autre chose, alors qui devait se faire l'année dernière et qui se fera peut-être en été, je ne sais rien, c'est de partir au Chili, dans le désert d'Atacama, sur les observatoires astronomiques d'ALMA et le Very Large Telescope. C'est-à-dire cette fois, ce serait de partir dans les étoiles. Je partirai là-bas avec un autre auteur de bande dessinée qui s'appelle Edmond Baudouin. Donc l'idée sera de faire une bande dessinée à deux. Et c'est un projet qui a été initié par un professeur de physique d'un lycée de Grenoble. Et donc on partirait avec ses élèves aussi. Donc ce serait toute une expédition au pied des étoiles. Et l'idée de la bande dessinée, en fait, c'est à la fois raconter le ciel, j'imagine, les étoiles, les exoplanètes et tout ce monde de l'astronomie que je commence à peine à connaître. Et aussi, sans doute, raconter ce qui se passe entre nous tous là-bas, dans le désert d'Atacama et au Chili. Voilà, donc... un peu comme tout à l'heure, je ne sais pas très bien ce que ça va donner, ce que ça va faire, mais l'idée en tout cas me plaît bien.
Et donc après chaque voyage, tu reviens toujours en Bretagne. Pourquoi t'être installé là où tu as grandi en fait? On n'est pas très loin de Saint-Brieuc, tu y restes.
Oui, enfin non, oui et non, parce qu'en fait si je suis né à Saint-Brieuc, effectivement je n'y ai pas vécu. D'accord. C'était la ville de mes grands-parents, donc je connais un petit peu. Mais j'ai quand même pas mal bougé en Bretagne. J'ai un père qui était journaliste, donc on allait souvent de rédaction en rédaction, donc on a dans différents endroits. Mais la Bretagne, c'est chez moi en fait. Je dirais que c'est, je m'y sens bien. Alors j'habitais d'autres endroits en France, en particulier dans le sud de la France. Mais je suis revenu ici. C'est un peu le hasard qui m'a fait trouver une maison à quelques kilomètres de l'endroit où je suis né, mais c'est vraiment, vraiment le hasard. Mais il y a une chose par contre qui est importante, c'est la proximité de la mer. Voilà, j'ai besoin de savoir qu'elle n'est pas loin. Comme vous le lisez dans mes histoires, je suis plutôt malade sur les bateaux. Enfin bon, je cherche aussi, je vais quand même dans les pires mers du globe. Donc c'est sans doute pas le meilleur moyen de s'amariner. Mais disons que je connaissais surtout la mer depuis la côte. Voilà. C'est vrai que ces expériences sur l'Astrolabe, sur le Marion Dufresne, c'était un peu extrême. En tout cas, ça m'a permis de la comprendre autrement. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de la dessiner, voilà, de comprendre comment elle marchait. Je pense que entre la façon que j'avais de représenter la mer, soit vue de la côte, soit soit d'imagination, cette façon de le faire a été différente une fois rentré. Parce que sur un bateau, en fait, on n'a pas grand-chose à faire, en fait, hein, sinon regarder la mer. Donc j'ai essayé de la dessiner. Et je pense que l'interprétation, en fait, que j'en ai aujourd'hui est très différente. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime vraiment dessiner. Comment essayer de trouver, dessiner cette transparence, ce mouvement perpétuel. J'ai essayé de trouver quelque chose qui me satisfasse de représentation effectivement de cet univers toujours mouvant et fascinant. Enfin voilà, dessiner la mer me fascine vraiment.
On va un peu retourner sur Terre. Il y a une planche dans ta BD Un printemps à Tchernobyl qui nous a quand même un peu marqué. C'est un dessin d'une forêt. Et les arbres sont bleus, le fond est vert éclatant, avec des couleurs jaunes. Donc avant, dans la BD, les couleurs étaient plutôt sombres. Et là, on passe sur des pages où vraiment c'est très coloré. Est-ce que tu peux nous parler un peu du moment quand tu as dessiné ces planches-là, plein de couleurs?
Je vais peut-être décrire le dessin. Ouais. Ça représente en fait une forêt d'arbres tout droit. Il y a une sorte de tapis d'herbe au sol. Les arbres m'apparaissent plutôt à contre-jour. Et effectivement, j'ai utilisé de la craie grasse, qui est une technique que j'utilise assez rarement en fait en voyage. C'est un moment très lumineux, on est au printemps. Et je vais traduire ça de façon assez expressionniste, on va dire. Je vais mettre l'herbe effectivement bien verte et je vais choisir de représenter ces arbres à contre-jour en bleu, en ayant une grosse craie grasse de bleu de cobalt, à peine rehaussée de quelques points de lumière de couleur un peu rose. Et il y a quelques pointes de jaune, sans doute pour représenter le sable au sol. Tchernobyl a été une expérience très 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 étrange parce que quand je suis parti là-bas, je suis parti avec une certaine idée de ce que j'allais voir. Donc je suis parti là-bas en fait dans le cadre d'un projet. Je digresse un peu, mais si je veux vraiment raconter ce dessin, je suis obligé de faire un peu ces digressions. Je suis parti dans l'idée que tout ce que j'allais voir là-bas transpirait la détresse, la tristesse, la mort. C'était la plus grande catastrophe nucléaire au monde. Ça a été des milliers, des centaines de milliers de victimes. Ce sont des terres abandonnées, irradiées. Et je suis parti là-bas dans l'idée d'en faire d'abord un carnet de voyage, à l'invitation d'une association militante. J'imaginais que pour traduire en fait cet endroit, j'allais utiliser des craies noires, de l'encre, des fusains, enfin que cet endroit sinistre ne pouvait se traduire que sous ces formes-là. Et c'était l'essentiel de mon matériel. C'est-à-dire que j'ai, dans mon matériel, en fait, j'ai anticipé ce que j'allais dessiner, sans avoir conscience. Hein. Mais ça me semblait évident que dessiner Tchernobyl, ça ne pouvait s'exprimer qu'avec ces outils-là. Et lorsque nous sommes arrivé là-bas, nous étions dans un petit village à l'extérieur de la zone interdite. Tchernobyl, c'est une grande zone interdite de 2600 km². quand nous étions dans un petit village, et lorsque nous sommes rentrés la première fois dans la zone interdite, par les checkpoints, dans nos passeports, etc., avec masques, gants, bottes, j'imaginais ce que j'allais voir, et ce que j'ai vu ce jour-là correspondait finalement à mon imaginaire. Il faisait un temps de chien. Il pleuvait, tout était gris, sombre. On découvrait la centrale nucléaire, on découvrait les bateaux abandonnés, les grands cimetières où on voit tous les véhicules, les hélicoptères, les avions, enfin tout ça qui était abandonné sur place. La ville de Pripyat, qui est une ville moderne, hein, qui datait de 1970, complètement abandonnée. Donc finalement, ça correspondait assez à l'imaginaire que je m'étais forgé avant de partir. Et je pense que si j'étais rentré tout de suite après cette première journée, j'aurais finalement réalisé le carnet que j'imaginais faire, c'est-à-dire un carnet assez sombre, en noir et blanc. Heureusement, je suis resté. Et là, dans les jours qui ont suivi, il a commencé à faire très beau. Donc c'était le printemps. Les arbres étaient en fleurs, il y avait des pousses tendres et bien vertes sur les arbres. Il y avait plein d'animaux, il y avait plein d'oiseaux. Vu qu'il n'y a plus d'activité humaine, il y a plein d'animaux. Et un petit peu comme ce qu'on a vu lors du premier confinement, en fait, les animaux étaient là, ils sont venus autour de nous. Et à ce moment-là, mais pour traduire en fait ce printemps qui renaissait, eh bien, à ce moment-là, j'ai utilisé d'autres outils. Et j'ai commencé à utiliser en fait ces craies, chose que je ne pensais pas utiliser, qui était au fond de ma boîte. Et ça a fait ces dessins-là. Et quand on voit ces dessins, ces dessins traduisent une nature finalement très belle, enchanteresque, paradisiaque. Et c'est le paradoxe, je suis à Tchernobyl. Et je traduis en fait cette beauté qui est autour de moi, et pourtant c'est Tchernobyl. Et je me dis, mais comment je peux dessiner ça? Enfin, pourquoi je suis à Tchernobyl, je fais des dessins beaux, enfin, tout est beau en fait autour de moi. Et comment est-ce que je peux dire que Tchernobyl c'est beau? Voilà, là c'est l'abîme qui commence à se creuser sous moi, quoi. En fait, je suis là dans un endroit de la plus grande catastrophe nucléaire qu'on ait connu jusqu'à présent, et c'est beau, et il y a des oiseaux. Et pourtant, je suis dans cet endroit avec un masque, des gants, je ne m'assois pas par terre. Je touche à rien. J'ai le dosimètre qui est dans la poche, qui me dit « reste pas ici, c'est dangereux ». Or, tous mes sens me disent « c'est magnifique ». Et le paradoxe qui va me donner envie de faire ce livre, il est là. En fait, dans cette distorsion entre ce que je sais de cet endroit et ce que je vois. Et qui est à l'opposé. Et c'est très troublant, en fait, de ne pas voir le danger. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. On sait que la pandémie est là, que les microbes sont là, mais on ne les voit pas. On se méfie de tout, on se méfie des autres, on se méfie d'être ensemble, de se parler. Et bien, à Tchernobyl, il y avait quelque chose de cela, où on était dans un environnement qui nous semblait extrêmement familier, et pourtant cet environnement nous était hostile. Et voilà, c'est comment le traduire. Et alors, dans la bande dessinée, j'ai essayé de traduire en fait ce trouble en faisant venir la couleur petit à petit. Tout le début du livre est noir. Il n'y a que deux couleurs, en fait. Je vais faire venir les couleurs petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, les deux couleurs du livre vont être le jaune et le rouge. c'est-à-dire celle du sigle nucléaire, hein, vous voyez la sorte de petite étoile là, donc qui est jaune et rouge. Donc je vais l'utiliser. Donc beaucoup des dessins, de cartes, de choses comme ça, j'ai utilisé ces deux couleurs là. Puis petit à petit, d'autres couleurs vont arriver jusqu'à un moment donné exploser. Ça va faire des images comme celle-ci, avec les arbres bleus, extrêmement, extrêmement colorés. Je dirais, pour exprimer plastiquement, graphiquement, en fait, les émotions qui m'ont saisi en étant là-bas. Alors, j'essaie de traduire, en fait, de façon narrative et graphique ces émotions. Voilà, c'est pour ça que ce livre est là aussi très, très, très évolutif. Mais voilà, la couleur dans ce livre a une raison narrative. Moi, il y a une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup, là, qui nous concerne ici en Bretagne, et ici chez moi en particulier, c'est Les Algues Vertes, ceux de Inès Leroux, qui a fait une enquête absolument extraordinaire là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais, qui est un livre qui fait froid dans le dos, parce que c'est... C'est une sorte de système assez effrayant d'intérêt, de lobbying, qui pose les questions de l'environnement, de l'agroalimentaire ici en Bretagne. Et quand je vois les réactions de nombre de politiques par rapport à ça, ça m'effraie. Je me souviens d'une interview d'un homme politique par le propriétaire du Télégramme de Brest, par exemple, qui était absolument hallucinante. un déni de réalité assez odieux. Comment il s'appelle déjà? Coudurier, Hubert Coudurier, voilà. C'était grotesque. Hein. Enfin voilà, quand je dis le déni, voilà, on est en plein dedans. Voilà, il y a un vrai travail d'enquête de la part de cette femme extrêmement extrêmement courageuse, qui en a fait un livre que je trouve absolument remarquable. Et puis ça se passe ici chez nous. C'est pas la mafia là-bas en Sicile ou ailleurs. C'est ici chez nous. Quoi, voilà. C'est des gens que j'ai rencontrés aussi. C'est ça que c'est parfois assez effrayant. C'est notre quotidien. Et donc je pense qu'effectivement on peut agir, voilà, comme elle a fait. Enfin, on peut en tout cas les interroger. Moi, je suis entouré ici d'exploitation de champs, d'exploitation de cochons. Enfin bon. C'est mon quotidien. Enfin, et c'est vrai que de lire ce genre de livre, de savoir comment ça fonctionne, je pense que ça peut apprendre, et justement, pas apprendre à devenir des citoyens. C'est pas de jeter la pierre aux agriculteurs, aux éleveurs. C'est pas du tout. Eux-mêmes sont prisonniers d'un système. Mais d'essayer de penser collectivement comment on pourrait essayer de mieux vivre ensemble. Après, en termes de livres, bon, bah, il y a plein de choses. Là, c'est peut-être en écho à ça. Après, oui, ça peut être les grands récits d'aventure, des choses qui m'ont donné envie de voyager. Je sais pas, l'île au trésor, par exemple. Voilà, le voyage, l'aventure, et une écriture absolument à l'os et sublime. L'île au trésor est illustrée par Andrew Wyos, ce sera encore mieux parce que c'est un illustrateur que j'aime énormément. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? J'aurais peut-être dû y réfléchir à ça avant en fait.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de visiter le phare de l'île Vierge dans le Finistère Nord, où seront bientôt exposées des planches d'Emmanuel Lepage. De rester à l'affût des festivals de BD à Angoulême, Chambéry ou encore Saint-Malo. Ou pourquoi pas, d'embarquer pour les terres australes et antarctiques françaises. Cuisinier, agent de l'environnement ou médecin, partez à l'aventure. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio U, où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonnec, Jody Kimberley-Rollier et Emmanuel Sahuquet. À bientôt!